Ces bêtes musicaux-là me font beaucoup rire. Salut! Je sais pas s'il faut changer notre voix.
Il te manque un peu de rock dans la voix, oui. Pascal, là, ouais.
Boulevard 102.
Un peu de rock, c'est-tu là que j'entre en jeu?
Toi, maintenant, tu ferais ça comment, là, dire qu'on est dans le point de Max puis on est de retour à 11h08?
Comment Max fait ça? Il y a une phrase qu'il utilise tout le temps.
Oui.
Oh que oui! C'est vrai, à 11h, c'est toujours
ça. Mais pas avec cette belle voix-là.
Non, c'est un peu plus... Max se donne un genre, il va chercher profond.
Mais vas-y, fais-nous-le avec le thème musical.
Généralement, Max, c'est un genre de... Oh que oui, 11h, vous êtes à Boulevard 102.1. C'est sûr que moi, j'ai la voix féminine, là, mais il pousse, tu sais, il met de l'air dans son...
Celle que vous entendez, c'est Audrey Pinchot, qui joint à nous pour l'open mic à 11h08. Je m'excuse, j'ai mal calculé mon temps. On a eu une envolée lyrique. Je me suis envolée, justement, sur un dossier épouvantable de Laurent Favant. Je sais pas si t'as vu dans l'actualité. Mais...
J'ai pas suivi, non.
J'ai hâte de t'en parler à pause.
Ben, on s'en jasera. Non, ça a été un matin rock'n'roll près de la bolle de toilette de mon côté,
oh
fait que l'actualité n'a pas encore été consultée.
Une autre journée.
Ça viendra.
Près du socle.
Écoute, ça arrive.
T'auras donné tout ce que tu peux pour cette magnifique grossesse-là.
Oui, oui.
C'est un gros travail de fond et de socle. Hey, aujourd'hui, c'est quoi ton sujet?
J'ai vraiment hâte qu'on parle avec notre invité aujourd'hui parce que c'est un sujet dont on parle peu, qui est apparu dans l'actualité. Puis c'est un métier, un domaine qui existe pourtant depuis quelques années. L'intervention communautaire, la prévention, je veux dire, du suicide, entre autres, sur le web. Une fondation qui s'appelle Fondation des gardiens virtuels. Et là, on la met en lumière dans les derniers jours, puis je trouve ça fantastique. Oui, puis on
T'avais
va jaser...
T'avais déjà entendu parler de ça? Moi, c'est vraiment la première fois.
Tu sais, j'avais déjà entendu parler qu'il y avait des gens qui s'adonnaient un peu à... En fait, sur le Twitch, nous, quand on l'avait avec Boulevard, on l'observait dans la communauté. Il y a vraiment des gens qui... s'entraidaient. Quand on voyait que quelqu'un allait moins bien, on dirait que les gens, vraiment, il y avait un effet communautaire.
Oui, mais une fondation.
Oui, une fondation. Wow. Puis je te dirais même un domaine, en fait, des gens qui travaillent carrément comme intervenants sur le web, intervenants virtuels, ça, pas tant. Mais tu sais, je suis pas non plus le public cible. Moi, je suis pas une fille qui est beaucoup sur les Twitch, Discord, jeux vidéo de ce monde. Fait que c'est peut-être un peu moins mon univers. Mais de savoir, par exemple, que c'est ça, il y a des travailleurs de rue numérique, je trouve ça fantastique parce que de plus en plus, heureusement ou malheureusement, mais les gens sont tournés vers le web. Même quand tu joues pas à des jeux vidéo, là, je veux dire, on a entendu tellement... Ils ont mis un IA sur Snapchat pour que les jeunes puissent se confier en toute sécurité, je veux dire, sans avoir besoin de parler à un humain.
C'est inquiétant un peu, dis-le même.
Moi, ça m'effraie, Mathias. Là. Mais bref, tu sais, les jeunes se tournent vers ça. Donc aujourd'hui, c'est Simon Gignac qu'on va rejoindre, travailleur de rue numérique, intervenant virtuel à la Fondation des gardiens virtuels.
À Boulevard, il y a un moment où on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre. C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
On dirait qu'on n'y a pas encore parlé, puis je l'aime déjà.
Ah, puis écoute, il s'est installé vraiment dans son studio, là, parce que lui stream, justement, pour pouvoir jaser avec ces gens-là. Fait que là, il est dans son setup professionnel en ce moment.
Mais je vois ça, des lumières derrière, un petit endroit qui est chaleureux.
Oui, oui. Et là, on a plein d'affaires à jaser parce qu'il y a le métier en soi, travailleur de rue numérique. Mais moi, je veux qu'on parle de la Fondation des gardiens virtuels aussi. Simon Gignac, bon matin, puis merci d'avoir pris le temps parce qu'il faut que je le dise, là, Simon est de jour intervenant en milieu scolaire, fait qu'il chôme pas, là. Il fait de la place dans son horaire pour nous aujourd'hui.
Écoute, ça me fait un grand plaisir. Merci à vous de m'accueillir chez vous. Bienvenue chez nous aussi. Là, vous avez parlé un petit peu de mon studio. Donc oui, Samuel Gignac, donc pas Simon pour tout le monde qui écoute.
J'ai-tu appelé Simon? Donc, excuse-moi.
Ben oui, mais c'est pas grave. Ça peut être Simon ce
c'est
matin.
C'est ton nom de code.
Ça sera mon nouveau surnom.
On a un collaborateur qui s'appelle Simon, probablement que je suis dans mon booking. Le retour de vacances ce matin, t'es pleine. Et je m'excuse, Samuel.
Il y a tellement pas de stress. Merci encore une fois de faire une place pour ça. Puis je pense que au-delà de mon parcours en tant que diffuseur, porte-parole, travailleur de rue numérique pour la Fondation des gardiens virtuels et coordonnateur clinique, superviseur clinique. Il y a tout un monde, puis on va essayer peut-être aujourd'hui de le décortiquer aussi pour les gens, parce que Twitch, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Donc moi, mon mandat en tant que porte-parole, c'est un peu de verbaliser tout ça, de ventiler là-dessus, puis de tout simplement faire une place à ça. Et faut quand même parler, je pense, de ces services-là qui sont 100% gratuits et accessibles à chaque soir.
Absolument. J'ai envie qu'on commence par parler de la Fondation des gardiens virtuels. Ça existe depuis quand? Hein? Parce que d'entrée de jeu, c'est un peu de ça qu'on parlait. Là. Moi, c'est un peu nouveau à mon oreille, ça. Là.
Oui, en fait, la Fondation des gardiens virtuels a vu le jour en 2018, qui a été fondée là, par François Savard, qui est chercheur et qui est aussi président au niveau de la Fondation des gardiens virtuels. Il y a toute l'info, là, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, il y a le www.gardienvirtuel.org là, sur lequel on peut voir vraiment l'entièreté des informations et du parcours de la Fondation. Mais à la base, la Fondation a vu le jour en 2018 avec comme mission d'être une balise en ligne, donc de peut-être pouvoir justement faire une place aux gens, d'avoir un endroit où est-ce qu'on peut être, qu'on peut avoir ce type de service-là. Et de fil en aiguille, on a eu finalement le travail de Rue Numérique qui a vu le jour.
2018, juste avant la pandémie, là.
Ouais, ça a été très précurseur, on s'entend, parce que la pandémie, on parle souvent d'accessibilité numérique. Là, avant, le télétravail était plutôt flou ou plus ou moins recommandé ou plus ou moins viable. Maintenant, le télétravail fait partie intégrante du quotidien de milliers de personnes au Québec. Donc, je pense qu'on voit l'accessibilité numérique à travers ça et à travers ce qu'on a traversé dans cette pandémie. Mais aujourd'hui, de voir justement qu'il y a des services sur des plateformes numériques pour les jeunes et pour les moins jeunes, il faut le mentionner, c'est accessible pour tout le monde finalement. Mais ouais, c'est quelque chose qui a toute qu'une place qui est de plus en plus importante, je pense, vraiment. Donc, c'est directement le but de la Fondation.
Votre équipe, ça ressemble à quoi? Parce que là, de ce que je comprends, il y a des travailleurs de Rue Numérique, mais il y a pas mal plus que ça, là.
Ouais, ben en fait, notre équipe va couvrir un petit peu l'entièreté de tout ce qui est communauté au Québec. Donc, on voit plusieurs créateurs de contenu qui sont en plein essor et tout. Donc, on a un petit peu au niveau de la gestion, mais l'entièreté de notre staff, donc de nos employés, excusez-moi l'anglicisme, on va vraiment aller un petit peu plus autour de notre dizaine de travailleurs de Rue Numérique qui surfent sur le web à chaque soir entre 19h et 22h et qui vont justement offrir ces services d'écoute, support et référencement-là. Donc, dans le fond, notre équipe ressemble à ça pour le moment, ouais.
Est-ce que tout le monde peut faire ça ou faut des formations? Tu sais, toi, de jour, tu es intervenant en milieu scolaire, mettons. Tu ouais. as déjà l'habitude
ça
avec fit, les gens,
hein,
c'est
mais
ça.
Oui.
Mais moi, demain matin, je peux-tu devenir une travailleuse de Rue Numérique ou ça n'a pas rapport, là?
Ben, il y a toujours la possibilité d'offrir du temps de bénévolat ou quoi que ce soit, de participer avec la Fondation. Mais pour être travailleur de Rue Numérique, en effet, il faut avoir une formation en intervention qui est soit complétée ou soit vers la fin. Là. Donc vraiment, souvent, on va avoir des gens qui vont être peut-être dans leur premier emploi, mais on va avoir des gens qui vont aussi avoir beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, on a une belle équipe qui est variée, tant au niveau travail social, éducation spécialisée, sexologie, psychologie. On a des gens de tous les milieux. Puis c'est ce qui fait en fait la richesse de notre équipe, c'est qu'on est allé chercher des gens qui ont des expertises qui sont différentes, mais tellement complémentaires pour être en mesure d'offrir notre mandat, finalement, au niveau du travail de Rue Numérique, qui est de l'écoute support et du référencement.
Samuel, en tout anonymat et confidentialité, peux-tu nous parler d'un cas typique? Quelqu'un qui est sur le terrain virtuel, qui elle rencontre, ça ressemble à quoi un problème, puis comment est-ce qu'on tente de le solutionner ou de l'accompagner?
C'est la richesse, je vous dirais, de notre milieu d'intervention avec les communautés en ligne parce qu'on a des gens de tous les horizons, de toutes les tranches sociales. Fait qu'on a des gens qui vont vivre des difficultés familiales, d'autres personnes qui vont vivre des difficultés de consommation, d'autres personnes que ça va être une femme qui est victime de violence, d'autres personnes que ça va être l'intimidation qui est vécue à l'école au niveau des jeunes.
OK, c'est large.
On a des possibilités infinies. Donc, quand on a la chance d'avoir une intervention avec quelqu'un, on ne sait jamais trop ce que ça va nous mener. On n'a pas non plus les repères qui sont typiques d'un milieu traditionnel d'intervention. Tu sais, moi, quand je suis en milieu scolaire, ben, je suis capable de dire que cette personne-là semble être ou s'identifier comme étant un homme, une femme ou non-binaire. Elle a approximativement tel âge. Elle est localisée en Abitibi-Témiscamingue. Quand moi, je parle avec quelqu'un, on parle à travers un pseudonyme. Donc, ça comporte aussi son lot de défis à travers le fait que je ne peux pas avoir déjà des pistes de solutions. Donc, on se doit de creuser, on se doit de travailler avec la personne. On ne sait jamais à quoi on va avoir affaire. Et c'est la beauté de ce travail-là et de notre expertise qu'on s'est dessinée aussi à travers les années parce qu'on va aider des gens de tous les horizons. Puis, tu sais, ça fait 3 ans officiellement que le programme existe. Donc, je vous entendais dire tantôt, on n'a pas entendu beaucoup parler et tout. On tente de le faire connaître. Et merci de nous donner cette tribune-là aujourd'hui pour en parler. Au niveau de la Radio de Québec avec BLVD, puis c'est vraiment le fun parce que justement, c'est comme ça qu'on fait connaître ce service-là. Puis tu sais, on a toujours bien fait aux alentours, j'ai pas le chiffre exact, mais aux alentours de 5000 interventions en 3 ans. Donc 5000 interventions, là, c'est 5000 personnes. Là, je fais un chiffron, là, mais 5000 personnes qui pour plusieurs d'entre eux, vivaient une détresse, vivaient un niveau de où est-ce qu'on ne savait plus trop où aller, où on avait réellement besoin d'aide. On a des gens qui ont des idées suicidaires, on a des gens qui vont vraiment pas bien. Donc, c'est de là où est-ce que je dis, c'est 5000 personnes, c'est énorme.
Puis on a l'impression...
5000 personnes en 3 ans.
On a souvent l'impression, quand on parle de gaming, de web, de jeux vidéo, que c'est une crowd qui est peut-être un peu plus masculine. Est-ce que c'est des interventions qui visent justement peut-être un peu plus les hommes sur le web ou non? Vous observez que c'est vraiment 50-50?
C'est ouvert typiquement à tout le monde. On a surprenamment une majorité masculine, mais pas une majorité écrasante. Là. Je pense que ça va être autour. Je n'ai pas les chiffres devant moi au niveau des statistiques, mais c'est comme un 60-40. Là, on a une majorité un peu masculine, mais ça touche tout le monde. Puis, je pense qu'il faut un peu détruire, mais il faut parler de ce préjugé-là ou de cette idée préconçue-là qu'on a au niveau des femmes ne game pas. Maintenant, c'est accessible tellement pour tout le monde. Donc, je dirais que... ça peut être des hommes, des femmes de tous les âges aussi. Tu sais, on a des jeunes que, dans la dernière semaine, j'ai travaillé avec des adolescents de 13-14 ans et je suis allé aider aussi une personne qui est victime de d'autres choses, mais qui avait 61 ans. Donc, on a de A à Z, puis on a des gens qui sont dans la communauté LGBTQIA+, on a des gens qui sont dans la non-binarité ou qui s'identifient il y a plein de réalités qu'on côtoie, qui ne vont pas forcément aller. Souvent, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on travaille avec des gens qui ne vont pas forcément aller vers les services traditionnels ou peut-être qui ont été froissés aussi vers les services plus traditionnels ou plus déjà implantés. Donc, ça fait une belle porte d'entrée pour qu'on puisse les accompagner puis éventuellement les accompagner et les diriger vers une ressource qui va être adaptée à leurs besoins à 100% puis dans laquelle ils vont pouvoir être pris en charge.
Là, Samuel, je sais que, mettons, toi, tu utilises un pseudo. Tu sais, souvent sur le Twitch, là, nous autres, on avait une communauté Twitch avec Boulevard puis Pizza Bacon 09. Ça allait complètement partout. Est-ce que tu penses que ça aide peut-être d'être dans l'anonymat, entre guillemets, aussi derrière un pseudo?
Ben 100%. C'est beaucoup moins confrontant souvent pour être en mesure d'ouvrir ce qu'on a à ouvrir. Je fais toujours l'image de... On a la chance de travailler avec des gens qui sont possiblement avec leur sac de chips dans le divan. C'est rare qu'on ait accès à un niveau d'intimité ou dans cette réalité-là en tant qu'intervenant avec quelqu'un. Puis c'est ce que je trouve aussi riche de notre milieu et de notre façon de faire, c'est qu'on va avoir... un milieu où est-ce que la personne est dans son endroit sécuritaire pour elle, elle est derrière un couvert d'anonymat, donc c'est beaucoup moins confrontant que, je ne sais pas, me présenter à l'urgence de l'hôpital parce que je ne vais pas bien. Donc, ça me permet de déjà pouvoir ventiler, déjà pouvoir soulager le surplus finalement, et ensuite de ça, on peut les diriger vers une ressource et déjà faire peut-être un plan de match de comment on veut nommer les trucs ou peut-être décrire les trucs ou on peut accompagner la personne à bien se préparer à aller vers cette ressource-là. Donc, ça reste autant confrontant, mais des fois, on a un cheminement qui est déjà entamé, puis qu'on a déjà pu accompagner vers une ressource qui va être adaptée puis dans laquelle la personne va recevoir des réels services finalement dans son réel besoin.
Est-ce que la Fondation des gardiens virtuels a aussi une autre route qu'ils peuvent emprunter du genre? On ne pourra pas aider cette personne-là, mais cette personne-là, elle est perturbatrice, que ça soit un appel au 911 ou une ligne avec des intervenants en milieu policier ou, t'sais, quelqu'un qui fait des menaces ou quoi que ce soit, elle ne voudra pas se faire aider, cette personne-là, nécessairement. Mais est-ce que vous avez une ligne avec les institutions de sécurité publique?
Bien, c'est sûr qu'on a des protocoles. Je n'irai pas détailler nos protocoles au niveau de tout ce qui est là. Mais oui, en effet, on a des marches à suivre en cas d'urgence suicidaire, etc. Maintenant, avec la richesse du web, bien, il y a tout le temps la possibilité de retracer une adresse IP ou etc. Donc, on a vraiment des protocoles avec les services d'urgence en cas de besoin. T'sais, on a des gens qui... vont justement être dans une urgence ou est-ce qu'ils représentent un risque pour eux ou quoi que ce soit, bien, il y a la P38, on a quand même la même légalité que n'importe quel service, donc on se doit absolument d'aller chercher justement d'aller mettre ça en application et de s'assurer que la personne va avoir justement ce soutien-là, il va être pris en charge par les autorités ou du moins par le service adapté. De l'autre côté, il y a plein de choses qui vont arriver aussi souvent, il va avoir une espèce de facilité à travers le pseudo qu'on parlait tantôt, mais de parler des choses qui sont beaucoup plus confrontantes et qui sont très difficiles à ventiler. Il y a des gens, moi, qui sont arrivés et qui ont ouvert sur des sujets comme des agressions sexuelles ou autres. Là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails et rendre ça trop lourd, mais où est-ce que c'était la première fois qu'ils réussissaient à l'écrire à quelqu'un? Et c'est une certaine forme de libération. Et ensuite, on peut accompagner par des services parce qu'on dirait que cette barrière-là est brisée sous le couvert de l'anonymat. Donc, on a vraiment une espèce de... on a vraiment une espèce d'ouverture peut-être qui est plus facilitante d'aller avec ces personnes-là pour accompagner vers des services adaptés grâce à cette espèce de sécurité-là que les gens ressentent à travers leur que ce soit leur ordinateur, leur téléphone, leur tablette ou autre. Et c'est ce qui fait la richesse de notre milieu de travail, je pense.
En passant, pour ceux qui viennent peut-être de joindre, là, on parle avec Samuel Gignac, qui est travailleur de rue numérique pour la Fondation des gardiens virtuels. Et là, entre autres, parce qu'il y a plus qu'un poste à travers tout ça. Samuel, là, on comprend que bon, les gens sont plus ouverts, évidemment, quand ils sont seuls dans leur salon avec leur sac de chips derrière leur écran. Mais la question que je me pose depuis tantôt, c'est comment vous les approchez? Parce que je m'imagine, mettons, moi, être sur peu importe ce que je fais sur Internet, là, mais tu sais, si je suis problématique d'une façon ou d'une autre, où on repère que j'ai un drôle de comportement ou que je file pas, ou je sais pas, mon premier réflexe, c'est peut-être pas de m'ouvrir à n'importe qui. Fait que votre approche, sans nécessairement tout dévoiler, ça ressemble à quoi pour faire en sorte que les gens aient envie de s'ouvrir?
Je vais y aller avec un exemple très concret pour la majorité des gens qui ne l'étaient pas il y a 30 ans au niveau du travail de rue traditionnel. Tu sais, les travailleurs de rue qui se promènent, qui vont aller dans les spectacles, dans les parcs, dans leur rue. Oui. Ben, en fait, il y a une espèce de phase d'intégration sur sa rue ou sur son milieu de vie de chacun des travailleurs de rue. C'est du travail de proximité, que ce soit du travail de corridor, un travailleur de corridor, un travailleur de milieu ou un travailleur de rue. C'est exactement la même idée, la même approche. Donc, nous, chacun de nos travailleurs de rue numérique vont avoir une phase d'intégration aux communautés. Où est-ce que, dans le fond, entre 19h et 22h, on rappelle les heures, là, on n'est pas un service d'urgence, mais entre 19h et 22h, nos travailleurs de rue numérique vont se promener sur les chaînes, donc en direct Twitch ou... ils vont se promener, ils vont interagir dans la boîte de discussion au même titre que les viewers, donc les gens qui vont aller consommer ce contenu-là. Ils vont réagir, waouh, beau jeu, etc. Ils vont vraiment s'intégrer dans la communauté, ils vont dire allô aux gens qui arrivent, bye bye aux gens qui partent, et éventuellement ils vont créer des liens un peu informels. Donc souvent, c'est pas forcément une création de liens directs ou une intervention le premier soir avec quelqu'un.
Okay, mais vous la journée que la personne traverse de...
Oups, excuse-moi.
Ah non, c'est moi, excuse-moi. J'ai dit, vous êtes pas comme des policiers du web, là. Vous venez pas comme.
Non, aucunement. Okay. Aucunement. En fait, nous, on est dans un service 100% volontaire où on ouvre nos portes et que les gens savent qu'entre 19h et 22h, sur les chaînes, là, vous pouvez aller les consulter sur trn.québec, qui est notre site Internet. Vous allez avoir toutes les chaînes de nos partenaires. Moi aussi, ma chaîne Twitch, qui est sous le pseudonyme Sonofodin avec deux F, donc S-O-N-O-F-F-O-D-I-N. J'offre des services aussi lors de mes diffusions par clavardage. Donc, les gens viennent vers nous et tranquillement, comme je dis, quand nos travailleurs de rue numérique vont surfer sur les différentes chaînes qui ils vont créer un espèce de lien formel. Et l'autre soir, c'était vraiment drôle quand telle ou telle chose s'est passée. On a ri ensemble. Et là, ce soir, moi, je ne vais pas super bien. Je revois le même nom. Puis je dis, Colin, c'était le fun l'autre soir. On dirait qu'il y a comme une barrière un peu de brisée parce qu'on a ri ou on s'est écrit en privé en disant, hey, ça, c'était vraiment drôle. Et bien, à ce moment-là, directement, ça peut être un réflexe plus facile et moins confrontant d'aller directement vers les services de travail de rue numérique. Donc, après la phase d'intégration, on va vraiment aller chercher cette espèce de lien informel-là pour éventuellement pouvoir offrir des services d'intervention. Donc, on n'est aucunement des policiers du web, on n'est aucunement une vigie qui surveille, puis au niveau de la légalité, aucunement. On n'est vraiment pas dans l'aspect menaçant vers les gens. Au contraire, on est vraiment là dans une perspective où est-ce qu'on connaît leur milieu, on connaît la réalité de quelqu'un qui consomme du contenu sur le web ou quoi que ce soit, et on connaît même sur quelle chaîne que les gens se tiennent parce qu'on finit par les voir, on se recroise. Donc, on a une espèce de ouverture que la plupart des, je veux dire, entre guillemets, services traditionnels ne peuvent pas forcément avoir parce qu'on est directement dans leur milieu de vie. Au même titre qu'un travailleur de rue qui va être dans le même parc et qui va croiser des personnes qui vivent des réalités différentes.
C'est drôle, tu parlais.
Je sais pas si ça répond à la question.
Ben oui, tu parlais, Samuel, puis moi, les images qui me venaient en tête, c'est comme si toi, dans ta semaine, tu as des plages horaires où tu t'en vas jouer au dodgeball, tu t'en vas faire du tricot, tu t'en vas dans un club de lecture et quoi que ce soit. Fait que tu t'intègres à toutes ces mini-communautés-là, puis tu commences à comprendre et à créer des liens avec eux. Fait qu'à un moment donné, si Victor ne file pas, tu le sens, tu le vois. Fait que ta job, elle est d'être présent, c'est un peu ça. Vous êtes pour certains rémunérés, c'est ce que j'ai compris de la conversation avec Audrey. Pour certains, vous faites ça de votre vie. Qui finance la Fondation des gardiens virtuels?
Il y a une partie qui vient au niveau des dons. En fait, les chiffres sont publics, là, vous pourrez aller voir, là, mais il y a vraiment une partie au niveau des dons. On a un streamoton qui s'en vient, qu'on appelle.
Quoi,
qui est justement dans les environs. Ouais, c'est un streamoton. Dans les environs de Québec. On pourra s'en jaser si vous voulez venir faire un tour. Ça me fera plaisir de vous faire faire le tour là-bas et de pouvoir peut-être même prendre du vidéo et tout. On a une cinquantaine de créateurs de contenu qui se rassemblent pendant l'espace d'un week-end au mois d'octobre et qui ramassent des fonds, justement, pour la Fondation des gardiens virtuels. L'année passée, c'est 100 000 $ qu'on a amassé. C'est ce qui fait en sorte, en fait, en grande partie, qu'on est en mesure de continuer notre mission puis continuer de pouvoir offrir ces services-là. Donc, en grande partie, c'est par des dons, donc certains financements gouvernementaux aussi à gauche et à droite pour des projets à côté aussi, parce qu'on ne fait pas seulement du travail de rue numérique, on offre des formations aussi. Souvent, je pense à des organismes que je vais encore qualifier de plus traditionnels ou des organismes qui sont implantés depuis longtemps, mais le web, souvent, c'est un gros défi, on ne comprend pas tout ça, donc il y a une possibilité aussi d'aller chercher les formations qui est offerte par la Fondation des gardiens virtuels, puis d'aller chercher justement ce côté-là. Donc, on a plusieurs volets au niveau de la Fondation. Bien entendu, moi, je prêche pour ma paroisse, là. Je vais parler du travail de rue numérique parce que c'est, tu sais, moi, j'ai commencé à faire ça il y a maintenant 8 ans quand j'ai commencé à diffuser où est-ce que j'offrais des services d'écoute, support, référencement sous forme d'initiative citoyenne. Puis finalement, ben, le programme a grandi, a cheminé. Puis aujourd'hui, ben, de dire qu'on est rendu une dizaine d'intervenants avec plus de, autour de 5 000 interventions en 3 ans sur les plateformes Twitch et Discord, ben, tu dirais ça à Sam d'il y a 8 ans dans son petit 3,5 dans le coin de sa chambre qui streamait. Probablement que je vous croirais jamais. C'est un service qu'on a créé. C'est sans être unique sur la planète, forcément. Je ne veux pas utiliser ça puis me faire lancer des roches parce qu'il y aurait quelque chose que je ne connaîtrais pas, mais on est des pionniers fois 1000 et c'est cool de voir qu'on fait ça chez nous au Québec à travers une fondation, à travers les dons de la communauté, puis surtout à travers nos créateurs de contenu qui souvent... Quand on parle d'influenceurs, on parle d'influenceurs avec des idées préconçues très négatives et nous, on le transforme. Donc, utiliser le web, les créateurs de contenu, les communautés en ligne, la réalité numérique, c'est pas seulement un défi, ça peut être un Christi de bel outil et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on apporte à changer un peu comme mindset au niveau de beaucoup de gens. Excuse-moi, j'ai utilisé plein d'anglicismes.
Écoute, on jase, il n'y a pas de stress. Fondation des gardiens virtuels, c'est comme ça qu'elle s'appelle, si jamais vous voulez justement donner ou vous avez besoin d'aide ou peu importe. S'il y a des auditeurs qui ressentent le besoin de parler justement ou qui veulent en savoir plus sur votre travail, le site web, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi?
100%, on est sur Facebook, LinkedIn. Ça serait encore bien triste qu'on ne soit pas sur les réseaux sociaux. Discord, on est sur... les gens peuvent aller aussi sur notre Discord au niveau de la Fondation des gardiens virtuels. Là, c'est accessible via nos sites Internet aussi.
Skyblog aussi.
Vous allez pouvoir les rejoindre. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez venir me voir en live ou encore m'écrire directement sur sous mes pages Son of Fodin. Ça va me faire un énorme plaisir pour vrai. On est là vraiment pour nommer ça, parler de ce service-là. Puis si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, je me dis que notre mission va être accomplie, t'sais.
Définitivement. Samuel Gignac, qui est travailleur de rue, intervenant virtuel à la Fondation des gardiens virtuels, intervenant en milieu scolaire de jour, il est pas mal. C'est un gros don de soi, ce que tu fais, Samuel, je tiens à le dire. Puis merci d'avoir pris le temps ce matin. Écoute, on a quand même, nous autres, un auditoire qui est très dans tout ça, là, le gaming et compagnie, puis qui s'intéresse à ça. Fait que j'ai l'impression que ça peut toucher beaucoup de gens.
Ah, 100%. Puis, tu sais, comme je disais, il y a notre Discord. Vous pouvez ouvrir un ticket de demande d'aide. Autant parler avec un intervenant qu'avec. Si vous voulez devenir partenaire ou bénévole, vous pouvez proposer votre nom aussi. Donc, merci encore une fois à vous autres ce matin d'avoir pris le temps de m'accueillir finalement dans votre chez vous en espérant que ça a pu répondre à vos questions et peut-être éclairer quelques personnes qui nous écoutent en ce moment.
Définitivement. Merci encore, Samuel. Je te souhaite une belle journée.
Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Extraordinaire comme découverte.
Je trouve ça tellement trippant.
Génial, comme il dit, on est précurseurs là-dedans. On commence, nous, avec le mouvement, puis on voit à quel point ça fait du bien. Tu l'as dit, on a la communauté ici à Boulevard 102.1 qui peuvent le rejoindre. Je vais juste répéter parce qu'il disait vite, puis moi, je serais du genre à avoir rien compris de son pseudo. Sonne comme un fils of OFF. Odin, O-D-I-N, parce qu'il vous transfère l'information, puis il vous dit si vous avez besoin d'une façon ou d'une autre. Tu sais, à l'époque où on cherche des psychologues, des travailleurs sociaux, que c'est super difficile avec nos assurances, oui, il y a des montants des fois liés au travail, mais on n'est même pas capable d'utiliser le
d'avoir
montant.
D'avoir un professionnel.
Parce que les listes sont trop longues.
Effectivement.
Des fois, c'est pas un énorme problème, mais tu dis, ah, ça serait peut-être la clé pour changer mon mindset, pour changer la façon dont je pense.
Puis juste jaser, en fait, sans jugement.
Juste jaser, tu sais, la solitude, là. Ouais. C'est une des causes de décès dans le monde.
Absolument.
C'est tough. Puis lui, il dit, Samuel Gignac, quand on a la chance, surligneur, c'est un auditeur qui le soulignait justement, de faire une intervention. Faut-tu aimer sa job? Faut-tu être là pour les bonnes raisons?
Définitivement. C'est une vocation. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Puis je veux dire, notre univers, notre monde change à ce niveau-là. C'est vrai que les gens ont plus le réflexe d'aller directement vers des places communautaires. T'sais. On dirait qu'on n'a pas le réflexe de se déplacer. On a peur du jugement. On ne sait pas trop comment, comment approcher. On n'ose pas prendre le téléphone non plus. Sauf si c'est une autre affaire. Parler au téléphone, on dirait que ça ne nous intéresse plus. Hein? Fait que de pouvoir juste clavarder avec quelqu'un dans le confort de ton salon, moi, je trouve ça top. Puis c'est, je tiens à le rappeler là, parce que les heures sont précises, 19h à 22h. C'est là qu'ils se promènent sur le web. Fait que si jamais vous avez besoin, n'hésitez vraiment pas.
Merci, Audrey, pour cette superbe découverte qu'est la Fondation des gardiens virtuels. On reparlera du Trimodon.
Hey, oui,
peut-être à l'automne.
Bon, ouais.
Mettons, te prendre une petite note. Toi, je sais que tu vas être en onde. C'est le genre de choses que tu peux suivre. Samuel Gignac qui est avec nous. Et surtout, Audrey Pinchot qui sera dans le retour avec Denis et Véro. C'était une première très forte hier de votre retour pour cette nouvelle saison. Merci, Audrey.
Bien, ça fait plaisir. À demain.
À demain. Mathias, avant de partir en pause, il y avait beaucoup de problèmes de circulation, entre autres, parce qu'il y a un engouement exceptionnel du côté de Valcartier. Ça doit être le parc aquatique, mais il y a aussi des enjeux un peu partout.
Mais du côté de Valcartier, c'est réglé parce que boulevard Valcartier en direction justement du village vacances, c'était très, très, très difficile tout à l'heure. Là, ça circule bien pour le moment. Par contre, 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, on s'en sort pas, c'est au rouge. En direction est, même chose entre Taniata et Avenue des Églises. Au même moment, sur la rive sud, Guillaume Couture, direction ouest, je vous dirais à hauteur de chemin du fleuve, il y a un bon ralentissement dans le secteur. Je sais qu'un peu plus tôt dans l'été, on faisait des travaux dans ce secteur-là. Je ne sais pas si on a repris les travaux, mais c'est du pare-choc à pare-choc dans le secteur. Fait que si jamais, il n'y a pas vraiment de solution là, sur la rive sud en ce moment. Là, la 20 ouest, c'est bloqué. Puis Guillaume Couture, c'est bloqué aussi. Je me transporte sur la rive nord quand même. Une petite affaire, Henri IV, direction nord à hauteur de boulevard Laurier. En direction sud, c'est à hauteur de Charrec, ça bloque. Et leur ancienne direction sud pour accéder à la capitale, c'est au rouge. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Dans votre auto, soyez prudents. Le soleil, des fois, fait des ravages sur les réseaux routiers. 21 degrés, on ressent 30 quelques. La bouteille d'eau, les lunettes soleil, puis boulevard dans vos speakers. C'est ça qui vous attend. De l'autre côté de la pause, on parle à Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris. On parle à Georges Mercier pour parler de bien des choses, dont du fameux Truth Social et Donald Trump qui fait une version VIP 100 000 $ par mois pour des abonnés qui se transforme finalement en genre de délit d'initié pour savoir ce qui va se passer à la bourse et faire de l'argent dans les prochains mois. C'est épouvantable, cette nouvelle-là. Et il s'en cache zéro. Le point de match.